L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Tous dans l'EM, votre quotidienne sur le 100.4 de Radio Évasion et aussi sur le tout nouveau site internet de la radio. Nous recevons aujourd'hui l'association DFD29, présidée par Nancy Dosset. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes aussi professeur d'anglais à l'UBO et ça c'est très important. L'association s'occupe donc de faire de la sensibilisation aux troubles 10. Vous accompagnez aussi des personnes 10 dans leur démarche. Nous vous avions déjà reçu pour une première fois pour nous expliquer, si tant est qu'on puisse le faire, les problématiques générales liées à ces troubles. Alors on va commencer par rappeler de façon très générale la différence entre une personne 10 et une personne non 10, on va dire. Alors ce sont des troubles qui proviennent donc de dysfonctionnements au sein du cerveau, dans une ou plusieurs parties du cerveau. Et pour faire simple, c'est le cerveau qui comprend mal les informations qu'il doit traiter. Et ça ne remet pas, et ça ne remettra jamais en cause l'intelligence de la personne. C'est bien ça?
Tout à fait.
Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un axe particulier. C'est probablement l'axe le plus évident, la dyspraxie à l'école. Et pour cette fois, Nancy, vous n'êtes pas venue seule, vous êtes accompagnée de Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, Thomas?
Oui, je m'appelle Thomas et je suis lycéen.
Vous avez quel âge?
19 ans.
19 ans. Et vous êtes donc atteint de trouble 10?
Oui, dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, dyscalculique. Et je pense que c'est à peu près tout.
Il n'y a pas de la dysphasie?
Dysphasie aussi.
Je crois. Oui.
C'est quoi la dysphasie déjà?
Le son, qu'on comprend mal ou qu'on sort mal. Dysphasie expressive, il sort mal. Dysphasie réceptive, on le comprend mal. Et les deux.
Et Thomas est. Alors j'allais dire atteint, mais on ne va pas dire atteint. J'ai du mal à trouver les mots parce que ce n'est pas
il
une
est,
maladie.
Il est multidys et on est dans le sévère.
Alors, sévère, ça veut dire quoi exactement?
Ben, c'est pas du léger. Ouais, ça l'embête beaucoup dans son quotidien et dans sa scolarité.
Alors, justement, l'école, c'est un des premiers lieux d'apprentissage dans la vie. Puis quand je dis ça, il faut le prendre au sens très, très large. Hein. Je ne parle pas que d'enseignement. C'est aussi, par exemple, le lieu des premiers liens sociaux. C'est là où on se fait nos premiers copains, nos premières copines. Est-ce que c'est aussi le lieu qui pose le plus de contraintes aux enfants dyspraxiques?
Tout le monde doit entrer dans la même case et doit apprendre de la même façon. C'est très schématique, hein, évidemment. Il y a la pédagogie sur projet, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais il y a encore beaucoup de travail et c'est vrai qu'un enfant, un adolescent qui a un fonctionnement atypique aura beaucoup de mal à trouver sa place à l'école.
Dans quel domaine d'apprentissage ces troubles se manifestent?
Tous les domaines, mais voilà, si c'est un dyslexique, ça va être l'écrit qui va être compliqué. Dyscalculique, tout ce qui est lié aux maths. Le dysphasique, il va falloir tout reformuler. Le dyspraxique, alors si c'est visuel, ça va être la lecture aussi. Ça peut être tout ce qui est géométrie, tenir les instruments, l'équerre, le compas. Toi, Thomas, t'es multidys. Qu'est-ce qui t'embête à l'école?
Surtout les maths.
Beaucoup les maths.
Les calculs, l'écriture, la compréhension.
Là, c'est pas que dans les maths, la compréhension.
Non, l'organisation, un peu de tout, oui.
Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Par exemple, la lecture, c'est quoi? C'est un assemblage de lettres?
Oui, mais déjà, il faut pouvoir les assembler et bien les voir, les lettres. Donc, si ça va dans tous les sens sur le papier, on ne peut pas les assembler. Un N peut être un U, un B peut être un D, un P, un Q. Enfin, donc, il va falloir les assembler et donner du sens à tous ces symboles qui n'ont pas vraiment de sens. Une fois qu'on a réussi, et puis il y a les espaces aussi, la dyspraxie visuo-spatiale, par exemple, on voit difficilement les espaces entre les mots. C'est quand même plus facile de lire quand on voit les espaces entre les mots, quand on est capable de passer à la ligne juste en dessous et pas passer trois lignes d'un coup. Enfin, on est perdu. Donc déjà, déchiffrer, mettre du sens à ce qu'on a sous les yeux, déchiffrer déjà. Une fois qu'on a déchiffré, il faut comprendre. Tout ça, c'est ceux qui lisent facilement, évidemment, on n'a même plus l'impression que ça travaille dans notre cerveau quand on lit, mais c'est énormément de travail de la part du cerveau, d'étapes, c'est tout un processus.
C'est des automatismes, C'est ça qu'il faut comprendre.
À la force, oui, ce sont des automates. Maintenant, pour moi, forcément, je lis, ça se fait tout seul. Mais au début, non, ça ne se fait pas tout seul. Un B n'est pas un B au début. Un B, il faut se dire, c'est un B. B, O, je les mets ensemble, ça fait beau. Ça n'a pas de sens au début. Donc, il faut comprendre, il faut apprendre ces codes. Et après, il faut les comprendre. Donc, tout ça pour un disque pour qui ce n'est pas un automatisme, ça demande beaucoup de temps, donc il va être lent. Il y aura certainement quelques moqueries, donc frustration. Il va être encore plus lent, forcément. Et puis, il va être très fatigué, parce que ça lui demande une concentration que quelqu'un pour qui c'est un automatisme n'aura pas besoin.
C'est-à-dire que quand on lit une phrase comme, par exemple, je prends mes notes là, que j'ai aujourd'hui, que vous n'arrivez pas à faire avant. Si j'étais une personne 10, je lirais presque lettre par lettre et je devrais faire l'effort d'assembler ces lettres pour essayer de trouver une syllabe, pour essayer de trouver un son pour que ça puisse sortir de ma bouche. En gros, c'est ça.
Pas forcément, parce que chaque 10, c'est ça qui est compliqué avec les troubles 10, chaque personne a vraiment son fonctionnement. Donc, un dyslexique, comme on est dans l'écrit là,
oui.
En effet, certains, ça va être lettre par lettre, ils vont essayer d'assembler, ils vont essayer de donner du sens. D'autres, ils vont juste voir un mot, ou ce qui leur, s'ils arrivent à percevoir les espaces, et deviner ce que c'est que ce mot. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et puis certains vont même assembler pour... Même l'œil ne sait pas où se poser sur la page.
Oui.
Donc je commence par où déjà ? Même si on a dit, c'est en haut à gauche, une fois sur la page, il n'y a plus de repères, on est perdu. C'est comme si quand... C'est un exemple qui me vient juste à l'esprit, hein. C'est peut-être pas un super exemple, j'en sais rien, mais moi là ça me parle. Si vous tournez sur vous-même, là, vous faites la toupie, vous arrivez d'un coup, vous n'avez plus aucun repère au niveau de votre espace. Et ben, devant la feuille, il est pareil, là. Les mots là, ouh, je suis où ?
C'est une vraie épreuve que quand on vous demande à l'école quelque chose, par exemple, Thomas, lisez à voix haute la consigne, est-ce que ça peut être une vraie épreuve, un vrai calvaire pour vous ?
Moi j'irais plus que c'est plus un stress. Assez intense, surtout quand c'est des classes où il y a 30 élèves ou 15 élèves. Le stress aussi de faire des erreurs. Et oui, la prononciation aussi.
Et d'engendrer des moqueries, etc. C'est ça le plus difficile.
Oui.
Parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout réticent à faire des efforts. Et j'imagine que, comme les 10, ce n'est pas une maladie. L'important, c'est de faire toujours des exercices en permanence.
Et trouver la bonne méthode.
Et trouver une bonne méthode.
Voilà.
Mais parce qu'il n'y a pas de remède. Par contre, on peut contourner toutes ces difficultés. Avec
les aménagements, déjà, il fallait contourner. Il y a des solutions. Je veux dire, un myope, il va porter ses lunettes. Donc, un 10, il aura des aménagements qui lui permettront d'avancer dans ses apprentissages.
Alors, par exemple, est-ce que le numérique, pour faire très large sur les 10, sans prendre des cas vraiment spécifiques, mais est-ce que le numérique, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bien pour les 10 ?
Pour certains, oui, ça peut aider. À nouveau, on est dans le cas par cas. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'outils. Il faut tester. Il faut que chacun teste. Je vois, par exemple, beaucoup de 10 ont des problèmes pour l'orientation dans l'espace. Trouver son chemin dans une ville, c'est l'horreur. Eh bien là, le téléphone, c'est génial. On tape l'adresse ou on l'a déjà enregistré et hop, ça nous amène... Mais il y en a plein, des adultes que je connais, sans leur téléphone, ils sont perdus. Donc, il y a plein d'outils, d'où l'intérêt des assos. Hein, appelez les assos et on vous dira, bon, là, vous pouvez être aidé par ça, ça, ça. Testez, parce qu'on ne sait pas, peut-être que ça ne convient pas. Testez, voyez ce que ça donne et en fonction, revenez vers nous.
Ça fait combien de temps, Thomas, que vous savez que vous êtes 10 ?
J'ai été diagnostiqué officiellement l'année dernière. Il n'y avait pas de diagnostic qui avait été fait officiellement. Et du coup, je me posais beaucoup de questions depuis pas mal d'années. Et j'ai voulu faire plein de bilans, du coup, l'année dernière, pour mettre fin un mot à mes...
Qu'est-ce qui fait que dans votre tête, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne va pas ?
Tout d'abord, parce qu'avant, j'étais en classe Ulysse, et le monde était quand même plus facile, parce que mes professeurs connaissaient mes difficultés, mes faiblesses. Tandis que là, depuis mon passage en CAP, j'ai pris connaissance de mes difficultés. J'ai pris connaissance que c'était beaucoup plus compliqué qu'en Ulysse. Et du coup, j'ai voulu vraiment savoir... D'où venaient mes difficultés, j'ai déjà fait des recherches sur Internet. C'est pour ça que vraiment j'ai voulu savoir un peu...
Ça veut dire quoi, Ulysse ?
Unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est une classe de moins de 12 élèves avec plusieurs accompagnants, notamment plusieurs AESH avec des cours adaptés, plus de sorties.
Alors adaptés, alors pour vous par exemple ?
Déjà en fait, la professeure nous prenait par des petits groupes, des fois de 1 voire 2 élèves. Puis même des fois, c'était des classes où il y a quelqu'un qui était malade, plusieurs personnes qui étaient malades. Des fois, on n'était que deux dans la classe. Et du coup, on était sur des petits groupes d'élèves où chacun notre niveau, on progressait, chaque groupe avec un niveau différent.
Quand est-ce qu'on intègre une classe Ulysse? À partir de quelle classe?
À partir de la primaire.
À partir de la primaire?
La primaire, il me semble, oui. Enfin, moi, j'ai commencé en école primaire.
D'accord, donc c'est-à-dire
J'ai redoublé mon CP et j'ai été directement classe Ulysse.
Ah oui, c'est si tôt que ça?
Oui, parce que j'ai eu un CP vraiment très difficile et on m'avait recommandé d'aller en classe Clis et après Ulysse.
D'accord. Donc vous n'avez pas connu de moquerie de vos petits camarades en classe? Vous êtes allé dans une classe spécialisée?
Oui, j'ai pas eu beaucoup de moquerie. Après, c'est peut-être plus quand j'allais dans d'autres classes, parce que du coup, Ulysse, souvent, on doit faire des inclusions dans d'autres classes classiques. Et du coup, c'est à partir de là où des fois, il y a quand même quelques moqueries, quelques personnes qui disent lui, c'est pas normal qu'il a ça, qu'il a ci. Et quelques interrogations, oui.
C'est-à-dire qu'on vous demande d'aller dans une classe de scolarité classique avec des personnes qui n'ont aucune difficulté.
Oui, alors en fait, en début d'année, on nous demande de choisir des classes où on voudrait aller. Par exemple, moi, au collège, j'ai voulu faire chinois. C'est rare, mais j'ai voulu faire chinois. En fait, c'est nous qui décident. Si on ne peut pas faire du sport, on ne fait pas de sport. Moi, je n'ai pas voulu faire du sport parce que ça ne me plaisait pas trop. Mais j'ai pu faire du chinois, j'ai pu faire de l'art plastique. Enfin, c'est nous qui décident.
Et c'est vrai, il y a eu un drôle de regard, vous avez senti
Au collège, non. Parce qu'au collège, au contraire, on nous disait « ça ne se voit pas, tu as des difficultés ». Enfin, on ne voit pas que tu as des difficultés, tu es comme tout le monde. C'est plus en école primaire où pas mal d'interrogations, oui.
Pour la classe, pour le dispositif Ulysse, en effet, ça propose des cours. Donc c'est vraiment du cas par cas en fonction de la personne. Thomas, dyscalculique, dysphasique, dyslexique, il avait certainement beaucoup de cours dans le dispositif Ulysse. Mais là où il a plus de facilité, là où il n'a pas de difficulté d'apprentissage, il rejoint la classe normale, entre guillemets, parce que ce qui est visé par les classes, le dispositif Ulysse, c'est quand même l'inclusion. Et s'il a besoin de temps, il intègre à son rythme les apprentissages. Et quand il est prêt, l'idéal, c'est qu'il puisse rejoindre une classe sans dispositif particulier, une classe classique.
Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau du corps enseignant avec les personnes 10?
Disons qu'on avance quand même, et doucement mais bien. Enfin, les gens se rendent compte quand même qu'il y a... les 10 sont là et qu'il faut les prendre en charge. Après, c'est un groupe humain, donc comme dans tout groupe humain, il y a beaucoup de différences. Il y a des enseignants qui sont super, qui vont tout faire pour aider les élèves en situation de handicap. Et d'autres qui sont aussi fatigués parce que il y a 30 élèves, qu'il n'y a pas les moyens il n'y a pas le temps pour aider ces élèves. Donc on les comprend aussi. Hein. C'est une tâche qui demande des moyens, du temps. Une formation aussi, les enseignants ne sont pas vraiment... Enfin, je dis vraiment, il y a quand même peut-être une demi-journée d'accorder dans leur formation. Mais il n'y a pas de réelle formation sur les troubles 10. Donc les enseignants se débrouillent. Et ils vont à tâtons et ils essaient de trouver des solutions par eux-mêmes. Et il y a aussi les enseignants... ça arrive, hein. qui refusent, qui ne veulent pas. Le trouble 10, c'est un gamin 10, encore un, c'est la grande mode. Sauf qu'il y a quand même un diagnostic. Hein. Donc, le professionnel de santé, il n'a pas sorti ça de son chapeau. Et donc, il y a des enseignants qui ne facilitent pas la tâche et les apprentissages de ces enfants, en effet. Mais c'est pas la majorité, Dieu merci, mais il y en a, et ça peut faire des dégâts, ouais. Surtout, un enfant, c'est une vie, c'est un avenir, enfin, voilà.
Ça a l'air très compliqué de pouvoir aider, j'allais dire, de pouvoir aider les 10, parce que justement, chaque cas est unique. Comment vous faites avec le corps enseignant à la DFD 29?
Alors déjà, on a l'agrément éducation nationale de par DFD national, ce qui nous permet d'offrir des séances de formation aux équipes pédagogiques, les infirmières, les AESH, enfin, toutes les personnes qui sont amenées à encadrer les enfants, les adolescents. J'étends, parce que souvent, on nous dit, oui, ben, on va voir tous les profs qui seront là, c'est super d'avoir les profs déjà, tous en plus, c'est merveilleux. Par contre, s'il s'agit d'un internat, il est très important d'avoir aussi les personnes qui gèrent l'internat, qui gèrent la cantine. Les 10 au niveau de l'organisation, au niveau du timing, et ça ne marche pas du tout. Donc, que les personnes qui gèrent l'internat soient conscients de ça. Ils ne font pas exprès. C'est juste qu'il ne peut pas gérer ses affaires, c'est une impossibilité. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à être à l'heure, pour l'aider au niveau de la durée, la toilette, ça ne va pas durer 3 heures, ni 2 secondes. Enfin, voilà, il a besoin d'un coach.
Oui, Thomas, par exemple, on parlait hors antenne du fameux 10h30.
Ah ben, quand je dis 10h30 à Thomas, je sais que c'est passé dans un trou sans.
Non, c'est vrai?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, des fois, au lieu d'aller à l'école à 8h, je peux très bien arriver là-bas à 6h. C'est vrai que je mets beaucoup de pression. Et souvent, bah, des fois, j'arrive trop tôt ou des fois trop en retard parce que bah, des fois, je pense trop à trop de choses et des fois, bah, j'arrive trop tôt ou trop tard.
C'est bon. 2 heures, c'est...
Ben oui.
Ça dépend.
Ouais. Et ce sur quoi je voudrais revenir, parce que tout à l'heure, on disait, enfin, Thomas disait que quand on lui demande de lire, il y a la pression, c'est pas facile et tout. J'entends déjà certains dire, bah oui, mais enfin, c'est pour tout le monde comme ça, c'est pas facile pour personne de lire à voix haute. À un moment, il faut se prendre en main, on y va, et comment il fera plus tard dans sa vie professionnelle, voilà. Donc, à savoir déjà que Thomas, en tant que multidis sévère, c'est pas qu'il a besoin de se secouer un peu pour y arriver, c'est juste que son cerveau ne peut pas. Et qu'il aura beau essayer de se secouer, de faire un effort et tout, il ne peut pas. Et que Thomas, en tant que multidis, il n'est même pas à 100%, il est mais à 200%, et la pédale, il est à fond. Il se donne à fond, j'irais 4-5 fois plus qu'un gamin qui apprend normalement au collège et au lycée. Je veux dire, je voudrais pas, je sais pas si je pourrais donner autant de ce qu'il donne tous les jours pour garder la tête hors de l'eau dans ses apprentissages. Il est à fond. Et dire que, oui, de toute façon, dans le monde du travail, comment il va faire, sauf que Thomas, il sait très bien qu'il a des difficultés, il a des diagnostics, il a des droits. Donc là, il a droit à des aménagements, il a droit à une AESH qui va l'aider à passer son concours. Il n'est pas bête. Il sait très bien, Thomas, tu sais que tu as besoin de ton bac. Il veut travailler dans un camping. Et dans ce camping, une fois qu'il aura son bac, il a sa RQTH. Demandez une RQTH dès que vous avez 16 ans, parce que vous serez amené aussi à faire des stages. La RQTH, reconnaissance RQ en qualité travailleur handicapé, c'est un document qui est personnel. C'est-à-dire, si vous voulez que personne ne soit au courant, personne ne sera au courant, vous le laissez dans un tiroir. En attendant, si un jour vous avez besoin de faire un stage ou sur vos lieux de travail, il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez une RQTH, vous la sortez, vous avez des droits. Thomas, là, il va peut-être... Elle est toute fraîche, hein, celle de Thomas. Donc, il n'est pas encore prêt. Mais il a un travail, un job d'été. Il est très fatigué. Et je lui ai dit, vas-y avec ta RQTH, montre-la et tu as droit à des aménagements. C'est un droit. Et plus tard, donc, bac en poche, qu'il aura eu grâce aux aménagements, certes, mais il y a droit, c'est un droit. Avec son bac, il peut travailler dans un camping et avec sa RQTH, il aura quelques aménagements qui lui permettront d'être super efficace dans son travail. Et je suis convaincue que, connaissant Thomas, ce sera un super élément dans un camping.
Est-ce qu'il y a des plans pour aider les personnes 10?
Ça, c'est dans la scolarité.
Oui, dans la scolarité,
voilà.
Oui.
Officiellement. Il faut 2 ans de prise en charge par des professionnels de santé, orthophonistes, ergothérapeutes, et voir ce que ça donne. Après ces 2 ans de prise en charge, en effet, on peut basculer sur un PAP. Le problème qu'on a actuellement, dans le Finistère et dans beaucoup d'autres départements, hélas, c'est qu'il y a une pénurie des professionnels de santé. Donc, demander à des parents à ce que leur enfant ait 2 ans de prise en charge par un orthophoniste avant d'avoir un PAP, c'est-à-dire des aménagements, C'est pratiquement impossible. L'inspection académique est au courant de ça, on en parle. Les orthophonistes, oui, certains vont arriver. Là, il y a une école à Brest. La première promotion est sortie. Sauf que je ne sais plus quel était le pourcentage. Je ne pense pas dire de bêtises. Hein. 70% des orthophonistes qui avaient plus de 61 ans. Donc même si on a une nouvelle promotion qui arrive, il va y avoir des départs à la retraite. Donc l'attente, elle risque de durer. Donc voilà, officiellement, 2 ans de prise en charge. Ensuite, on demande un PAP, donc ça avec le médecin scolaire, l'enseignant référent, c'est bien aussi, le chef d'établissement, le professeur principal ou l'institutrice, instituteur. On met les aménagements dont l'élève, le collégien, le lycéen a besoin, on les met officiellement sur papier. Alors après, de là, ce qui soit respecté et tout, faut remonter, faut aller au front régulièrement et vérifier que ce soit fait. Souvent, on a des adhérents qui me disent les petits sont encore en primaire, la maîtresse est très gentille, elle fait des petits aménagements, voilà, plus de temps, il n'a pas tous les exercices, c'est très bien. Et un grand merci à la maîtresse d'être gentille et d'avoir cette attention. Par contre, il faut absolument que ce soit officiel. Il faut un papier officiel. Il faut la preuve que dès le CE2, l'enfant avait besoin d'aménagement. Parce que le jour où on veut vraiment basculer sur un PAP, on a toutes les preuves. Et le jour où, parce que le PAP donne droit ensuite aussi à des aménagements pour les examens. C'est-à-dire un tiers-temps. Après, selon les troubles, il y a différents aménagements possibles. Mais les aménagements aux examens se demandent s'il y a eu déjà des aménagements en cours et s'ils ont été efficaces. Donc, il a fallu les tester par le PAP. D'où l'importance, dès le primaire, même si la maîtresse elle est super gentille et tout, demander un papier officiel. Gardez tout, faites des copies de tous les papiers. Que dès que vous basculez sur un PAP, le PAP doit être vu aussi par les parents, validé par les parents. Et le PAP permet de faire des demandes pour les aménagements aux examens. Information importante, donc nous on les met sur le site de l'association DFD29. Il y a des dates butoirs. Pour avoir des aménagements au brevet des collèges, donc on est fin 3e, la demande se fait début 4e. Et pour avoir des aménagements pour le bac, on commence évidemment par le bac de français, première, fin première, la demande se fait début seconde. Donc c'est-à-dire que si vous voulez des aménagements au brevet des collèges pour votre enfant, que la demande se fait début quatrième, il me faut un PAP valide 2 ans avant, on commence dès la 6e, voir si on peut commencer en CM2. On y va. Et je dirais même début du 3e cycle, CM1, CM2, et hop là, c'est déjà PAP. Ça peut faire peur, mais c'est comme ça.
C'est un vrai parcours du combattant pour les familles. Ça doit être super dur. Est-ce que vous faites de la médiation entre un système scolaire et puis une famille qui peut être complètement débordée comme ça des papiers
ça arrive, toutes les associations ne le font pas. Moi, je sais que DFD29, on se propose pour le faire. On va aux réunions d'ESS, c'est les réunions où il y a les...
D'ESS, attention.
ESS, voilà. Les réunions, je ne sais plus, scolarité, où on décide des aménagements. Alors, pour plusieurs raisons, parfois, ce sont les enseignants qui ne voient pas le trouble, qui ne comprennent pas le trouble. Donc, on intervient pour essayer de leur faire comprendre qu'il ne fait pas exprès, qu'il y a des diagnostics, et il y a un réel trouble et qu'il a besoin d'être aidé pour continuer sa scolarité, qu'il a le droit d'apprendre, comme tout enfant. Mais t'as aussi arrivé d'avoir une adhérente qui m'appelait, qui avait réunion d'ASS et qui savait très très bien qu'elle allait perdre son calme. Donc j'y allais en tant que médiatrice et j'avais ma petite main sur la cuisse de la maman. De temps en temps, on se calme. Et du coup, ça a permis d'avoir un dialogue parce que les enseignants, le chef d'établissement, ils ne se sont pas sentis agressés par la maman qui serait partie tout feu tout flamme si je n'avais pas été là pour la calmer.
Mais pourquoi elle serait partie en...
Alors peut-être dans son caractère aussi. Ouais. Mais, et puis surtout, la communication qui était difficile. Mais
Je veux dire concrètement, c'était quoi le problème? Elle disait quelque chose.
Elle voulait.
En face, c'était dans le déni
non,
total.
Pas forcément, ça venait aussi un peu d'elle. C'est pas noir ou blanc. Je pense que, et puis je pense qu'à la longue, les personnes s'étaient braquées aussi. C'est vraiment pas facile. Hein. Et ce que je répète à chaque fois, faut garder à l'esprit qu'on est là pour l'enfant. On n'est pas là pour les parents, on n'est pas là pour les enseignants. Celui qui va bénéficier de cette médiation, ça va être l'enfant. Donc chacun met son ego dans sa poche. Les parents, il y a des choses qui font pas plaisir à entendre. Les enseignants, non. Mais on est là pour que l'enfant puisse continuer sa scolarité.
En plus, je le répète, hein, vous êtes enseignante, donc vous savez. Bah,
c'est vrai que ça m'aide à parce que parce que souvent on a des adhérents qui voilà les profs ils comprennent rien. Hein. Le fait d'avoir le regard du prof, ça me permet. J'ai les deux visions, ce qui me permet justement d'aider à cette médiation, parce que je comprends aussi, quand on va à l'inspection académique, hein, et que les inspecteurs nous disent bah oui, mais AESH, et quand il sera en enseignement supérieur, s'il n'est pas en BTS, comment il fera? Bah oui, moi je les ai, hein, à l'UBO, des dyslexiques ont toujours des AESH, et ben c'est compliqué, parce qu'ils n'ont plus personne. Donc je comprends. Mais en même temps, ce n'est pas une raison d'abandonner l'enfant. Et voilà, il faut trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions. Et comme pour Thomas, de par son multidis sévère, il a quand même eu son CAP, il rentre en bac pro. Tout ça, il l'a fait par la petite porte, grâce aux aménagements, grâce aux AESH. J'ai rencontré ton AESH, Philippe.
Oui, Philippe.
Bah, super gentil.
Adorable.
Et qui le suit, il va peut-être rejoindre l'association pour témoigner justement. Enfin, voilà, grâce à toutes ces personnes, Thomas a pu, et malgré ses troubles et son handicap face aux apprentissages, il a pu continuer à apprendre à son rythme. Il est passé par les petites portes. Là, il a enfin une AESH individualisée parce que le bac, bah, ça va être plus compliqué, hein, forcément. Mais avec l'AESH individualisée, on lui donne encore plus de chances. Il est motivé, il sait ce qu'il veut faire. Et plus tard, bah, voilà, son travail au camping, je suis sûre que ça va le faire. Avec sa RQTH, il pourra.
Vous êtes heureux, Thomas ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui.
Bon, super. Bah, merci beaucoup d'être venu, Nancy, et puis bah, Thomas,
merci.
Cette émission. Merci. Et vous pourrez réécouter tout ça sur le site de la radio.